Chapitre 3. Il était une fois. L'homme de la préhistoire à nos jours. Dans ce chapitre, l'histoire avant l'histoire, les événements qui ont fait l'histoire, en marge de la grande histoire, les grandes civilisations. Suivez ici notre propre aventure, depuis l'apparition de l'homme il y a 3 millions d'années. Il faudra, hélas, en passer par les guerres et les conflits, mais le choix se portera sur les moins connus, les plus insolites, les plus poétiques parfois. À l'image de la Xoxi-Yaoyotl, la guerre fleurie des Aztèques. Puis, place à l'insolite, à l'indiscret, au secret de l'histoire, savamment gardé, patiemment débusqué. La préhistoire. La préhistoire commence avec l'apparition de l'homme. On peut parler d'homme véritable à partir du moment où deux conditions au moins sont réunies. La bipédie, le fait de marcher sur ses deux jambes, et la fabrication et l'utilisation d'outils. Traditionnellement, la préhistoire se divise en 3 grandes périodes liées à l'évolution des industries de la pierre et de la technologie. Le paléolithique, l'ancien âge de la pierre, dont l'appellation recouvrait au XIXe siècle l'époque où était utilisée la pierre taillée. Le mésolithique, période charnière où les transformations climatiques vont notamment diversifier l'activité de chasse et de pêche et entraîner le perfectionnement des techniques. Le néolithique, ou nouvel âge de la pierre, longtemps désigné comme âge de la pierre polie, ou plus ou moins précocement selon les conditions de son environnement, au 6e millénaire avant Jésus-Christ dans le Proche-Orient, au 4e millénaire en Europe, l'homme devient éleveur, agriculteur et producteur, commençant par ailleurs à se sédentariser. La préhistoire prend fin au moment où commence l'histoire, avec l'apparition de l'écriture, aux environs de 3300 avant Jésus-Christ.
Le saviez-vous ? Restons modestes. Bien sûr, la naissance de l'homme conditionne à nos yeux le seul moment vraiment intéressant de l'histoire. Mais si on la replace dans le contexte des âges géologiques, depuis la naissance de l'univers, elle devient toute relative. Admettons que le temps écoulé, depuis la naissance de l'univers, il y a environ 15 milliards d'années, se resserre en une seule année. À quel moment les grands événements, dont l'apparition de l'homme, prennent-ils leur place ? Le 1er janvier, 0h01, c'est le Big Bang, naissance de l'univers. Le 2 septembre, naissance du système solaire et de notre bonne vieille Terre. Le 7 octobre, la vie apparaît sur Terre sous forme de bactéries. Le 31 décembre, 22h, le premier homme à adopter la bipédie se dresse fièrement sur ses deux jambes. Le 31 décembre, 23h59, c'est la naissance de Jésus, dit le Christ, mais 33 ans plus tard. Le 31 décembre, 0h00, nous y sommes, c'est aujourd'hui.
Sur les traces des premiers hommes. L'homme de Cro-Magnon a tenu pendant longtemps la vedette dans le monde de la préhistoire, avant d'être détrôné par ses cousins africains, les Australopithèques. Qu'est-ce qui a permis de considérer l'Afrique comme le sexe du monde d'où seraient nés les premiers hominidés? Comment peut-on comprendre comment ont eu lieu les grandes migrations préhistoriques? Pendant longtemps, on a supposé que les primates s'étaient éteints en Amérique du Nord, en Asie, à la fin de l'Éocène, entre 55 millions d'années et 35 millions d'années. Or, ces derniers, semblerait-il, n'auraient pas survécu ailleurs qu'en Afrique. De nouvelles découvertes ont mis au jour des restes de primates à Java, et celles faites en Asie pourraient peut-être laisser entrevoir d'autres lieux pour repenser l'origine du monde.
Un peu de technique. Toi, Jane, moi, Tarzan. Le chimpanzé est proche de l'homme. Et même encore plus proche qu'on ne le pense. Les recherches ont montré que les macromolécules protéiques de l'un et de l'autre étaient identiques à 99%. Le plus éloigné de l'homme est l'orang-outan, avec ses 3,46% de divergence moléculaire, puis le gorille, avec 1,84%, et le chimpanzé, avec seulement 1,61% de différence. Finalement, nous sommes plus proches de Cheetah que de King Kong.
Un berceau à roulettes, le Tchad. C'est dans la vallée de l'Afar en 1974 que le squelette presque entier d'une petite femelle prénommée Lucie a été retrouvé. À l'époque, daté de 3,5 millions d'années, c'était le plus ancien fossile connu. Branche sans descendance, en raison du changement climatique expliqué par Yves Coppens et sa théorie de List Size Story. Il y a 4 millions d'années, à la suite d'un changement climatique, les territoires à l'est du rift deviennent plus chauds et plus secs. Pour échapper aux prédateurs, l'hominidé se redresse, car les arbres ont fait place aussi aux graminées. Ces herbes, moins hautes, l'obligent à voir le plus loin possible afin d'identifier les prédateurs.
Le saviez-vous? La ruée vers l'os. En 1995, dans le secteur fossilifère de Korotoro, au Tchad, une nouvelle espèce d'australopithèque est décrite, la première connue à l'ouest de la Rift Valley. Découvert par le paléontologue Michel Brunet, ce nouvel hominidé, baptisé Australopithecus Barrel-Ghazali par les scientifiques, est connu sous le nom d'Abel. Plus récemment encore, en 2001, la région fossilifère de Toros Menala nous a livré Sahelanthropus tchadensis, appelé Toumaï. C'est le plus ancien hominidé connu. Il est vieux de 7 millions d'années. Déjà au milieu des années 1960, le paléoanthropologue français Yves Coppens avait découvert dans la même région le crâne d'un hominidé vieux d'un million d'années, proche d'Homo erectus. L'Afrique de l'Est n'est plus le seul berceau de l'humanité.
La famille Australopithèque. Au Kenya, la découverte en 2001 des restes du premier bipède, deux fémurs incomplets, des os du bras et des dents, Aurorine tugenensis, a révélé un hominidé vieux de 6 millions d'années, soit plus vieux de 3 millions d'années que Lucie. Sa taille était celle d'un chimpanzé. Ceci tend à montrer que les Australopithèques ne sont pas nos ancêtres directs, mais appartiennent à une branche latérale. Les Australopithèques ont été découverts pour la première fois en 1924 en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, et plus récemment au Tchad. Lucie est le plus connu de tous ces fossiles. Habile homme, Homo habilis. L'Homo habilis fut découvert en 1964 en Tanzanie. Il aurait vécu vers moins 2,4 millions d'années et aurait probablement taillé le silex. En fait, des galets fluviatiles ou choppers, les chopping tools, outils de galets. Sa capacité crânienne est plus importante que celle des espèces précédentes, autour de 600 cm3, mais il est toujours d'une petite stature, soit 1,25 m environ. L'Homo habilis apparaît entre une période d'environ 2 millions à 1 million et demi d'années et ne cesse d'évoluer pendant 1 million d'années ensuite environ. Le volume de son cerveau est d'environ 600 cm3. Il montre une bipédie plus affirmée et la forme de ses mains est proche de celle de l'homme actuel. L'homme qui marche, Homo erectus. L'Homo erectus s'est tellement déplacé qu'on le retrouve à Java, en Chine ainsi qu'en Afrique de l'Est et du Sud. D'une apparence différente, il est plus grand. Et sa capacité crânienne est comprise entre 1250 cm3 et 1500 cm3 environ. Son plus grand apport à l'humanité est la découverte du feu, dont il reste des témoignages datant de moins 500 000 ans, et la taille du biface, une industrie de l'époque aquéléenne. Il aurait disparu vers moins 400 000 ans, mais les dates ne cessent de se modifier au fur et à mesure des découvertes nouvelles. Toujours plus loin, l'homme de Néandertal. Sa découverte remonte au milieu du XIXe siècle. Très large, son aire de diffusion s'étend d'Israël au Proche-Orient, à l'Allemagne, en Europe du Nord, où il fut découvert en 1856. Les vrais Néandertaliens apparaissent vers moins 120 000 ans, comme l'homme retrouvé à Totavel dans les Pyrénées-Orientales. Il faut toutefois distinguer les Néandertaliens du Proche-Orient, qui vécurent il y a 200 000 ans, de ceux d'Europe plus jeunes, environ 80 000 ans. Ils mesuraient dans les 1,60 m avec une capacité crânienne de 1800 cm3, proche de celle de l'homme moderne. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme de Néandertal enterre ses morts comme sur le site de la Chapelle aux Saints, en Corrèze. Homo sapiens sapiens, nous voilà. Vers moins 100 000 ans, il apparaît en Afrique du Sud, puis plus récemment en Europe. Vers moins 40 000 ans, en Europe, c'est l'homme de Cro-Magnon que l'on rencontre. Son nom lui vient de l'abri sous lequel ses restes ont été découverts. C'est le plus connu des hommes de la préhistoire, mais il s'agit d'un homo sapiens, d'un homme qui pense. Il vit à la même époque que les Néandertaliens, dont l'espèce disparaît peu à peu.
Un peu de technique, les premiers Français. Les plus anciens fossiles retrouvés en France sont ceux de Montmarin, en Haute-Garonne, et les restes de l'homme de Totavel, une grotte des Pyrénées-Orientales. Les premiers seraient datés entre 500 000 et 400 000 ans et appartiendraient à des Homo erectus. Le site de Chillac, près de Brioude, en Haute-Loire, est daté de 1,8 million d'années. La grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes, a été datée de moins 950 000 ans en raison de son outillage rudimentaire. Les premières traces d'habitat organisées ont été mises au jour à Soleillac, près du Puy, en Haute-Loire, où des blocs de basalte et de granit délimitaient une zone d'occupation sur les rives d'un lac, il y a 800 000 ans.
La vie quotidienne pendant la préhistoire. Mais au fait, comment vivaient nos aïeux ? Pour avoir une idée plus précise du mode de vie au temps préhistorique, effectuons maintenant un voyage au cœur du quotidien des hommes du Paléolithique. L'habitat préhistorique. Contrairement à une idée reçue, l'homme de la préhistoire n'était pas un troglodyte invétéré, il ne s'installait pas systématiquement au fin fond d'une grotte. Les abris sous roches qu'il a aménagés sont nombreux. Dès la Cœléen supérieure, il y a 100 000 ans, il a même préféré les hauts vents exposés, le plus souvent en plein sud. Ils ont l'avantage par rapport aux autres gisements, objets de fouilles, d'avoir une stratigraphie peu remaniée. Leurs parois ont été décorées de peintures ou de sculptures au Paléolithique supérieur, une période qui s'étend de moins 35 000 à moins 10 000. En France, la plupart d'entre eux sont localisés entre la Loire et les Pyrénées. Formés sous l'action du gel et du dégel, les abris sous roches fournissent un habitat à l'abri des intempéries, mais plus ouvert sur l'extérieur que les grottes.
Le saviez-vous ? La grotte du Lazaret. Certains de ces habitats montrent un meilleur aménagement intérieur, comme celui de Terra Amata dans les Alpes-Maritimes. En l'occurrence des constructions légères implantées sur le littoral d'une plage aux alentours de moins 380 000 ans. D'après les trous de poteaux, on peut penser que l'ensemble était recouvert d'un toit léger. De petits foyers étaient installés à même le sol ou sur un dallage. La grotte du Lazaret, datée de moins 150 000 ans, a permis de reconstituer une habitation de 11 mètres de long sur 3,5 mètres de large. L'amoncellement devant l'habitat, de détritus et de restes de pierres débitées, montre que ces activités avaient lieu en dehors. Située sur le versant occidental du Mont Boron, à Nice, elle s'ouvre sur une corniche, à 26 mètres au-dessus du sol. Profonde de 35 mètres et d'une largeur maximale de 14 mètres, elle a été utilisée par des groupes de chasseurs, comme le prouvent les restes d'animaux et les pierres taillées, parsemées sur une hauteur de plus de 7 mètres de sédiments.
La conquête du feu. La maîtrise du feu est sans doute l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Le feu protège, réchauffe, permet de ne pas se plier au rythme des journées, de cuire sa nourriture. Son rôle social a été capital, puisqu'il permet le regroupement des individus et ainsi la première forme de cohésion. Les archéologues situent sa maîtrise aux alentours de moins 450 000 ans. En Europe, les principaux foyers ont été retrouvés à Terra Amata, à Nice et à Ménez-Drégan, en baie d'Audierne, datés d'entre moins 450 000 ans et moins 250 000 ans. Néanmoins, si l'Homo erectus a su entretenir des foyers, il faut attendre le Paléolithique supérieur, de moins 35 000 à moins 10 000 ans, pour que les briquets préhistoriques fonctionnent par percussion de la marcassite. La marcassite est un minerai de fer qui produit des étincelles lorsqu'il est frappé avec un silex. De véritables briquets à percussion de ce type ont été trouvés en Belgique et en Allemagne sur des sites datés d'environ moins 30 000 ans. Ensuite, au Néolithique, vers moins 9 000 ans environ, est mise au point la méthode par friction. Il s'agit de frotter une tige de bois taillée en pointe sur un morceau de bois. Par échauffement dû au mouvement, la chaleur créée enflamme un combustible placé au bon moment à la base de la tige.
N'oubliez pas, allumez le feu. En 2004, des scientifiques de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque de Jérusalem ont prouvé que la plus ancienne maîtrise du feu pourrait dater de 790 000 ans en Israël. En effet, des graines, du bois, des silex brûlés sur le site archéologique de Jecher Benot Yaakov ont été retrouvés en groupe de petits fragments. D'après le regroupement des matériaux, on a pu déduire que le feu n'était pas accidentel, mais provoqué et entretenu. Avant cette découverte, les chercheurs pensaient que les premières traces de foyers entretenus se trouvaient en Chine, à Jokodian, et étaient datées de moins 400 000 ans. Il s'agit de pièces en os durcies au feu pour être plus résistantes et servir d'armes de chasse plus efficaces.
La taille des silex. Les plus anciens outils sont des galets fluviatiles. Mais c'est à partir de l'Homo habilis, il y a 2 millions d'années, que la variété des outils ne cesse de croître et de se diversifier. La mémoire de l'humanité se transmet à travers les outils et les objets qui se spécialisent de plus en plus, en fonction du travail à effectuer, aiguilles en os pour coudre, harpons en os, etc. La grande étape se fait vers moins 600 000 ans avec la fabrication des bifaces par l'Homo erectus. Le biface, autrefois appelé coup de poing, est un gros éclat de pierre qui obtient sa forme définitive par une succession de chocs qui détachent des éclats sur ses deux faces. Réalisé dans des matériaux rocheux aussi variés que le quartz, le silex et l'obsidienne, les bifaces servent à de multiples usages. Armes de chasse, outils pour dépecer un animal. Les exemplaires les plus anciens, datés de moins 1,50 million d'années environ, ont été retrouvés en Tanzanie sur le site d'Olduvai. Des papas bricoleurs. L'expérimentation en préhistoire s'étend à des domaines très variés. Outre la taille du silex, il s'agit du façonnage d'une aiguille à chat en os, des techniques pour allumer un feu ou de la manière de lancer une sagaie avec un propulseur, bâton adapté qui permet de l'envoyer beaucoup plus loin. Le propulseur à crochet est un bâton dont l'extrémité est munie d'un crochet que l'on introduit dans l'orifice percé à l'arrière de la sagaie, sorte de lance. Ils étaient utilisés pour propulser des sagaies au loin. Taillés dans du bois de renne, ils présentent une tige rectiligne terminée par un œillet, lequel était souvent décoré de l'image d'un bison, d'un bouquetin ou d'un cheval. Ils sont très localisés géographiquement, puisqu'on ne les trouve que dans le Périgord et les Pyrénées, et ce pendant la période du Magdalénien. Leur efficacité est redoutable pour augmenter la vitesse initiale de la sagaie et permettre ainsi d'atteindre, en étant beaucoup plus éloigné d'elle, la proie convoitée. Son utilité est également grande s'il s'agit d'atteindre un animal féroce ou particulièrement redoutable en se ménageant une stratégie de fuite permise par une plus grande distance. Les bâtons perforés semblent perdurer à l'Aurignacien et au Magdalénien. Ils sont faits aussi dans le bois de renne. Il y a un trou au milieu d'une enfourchure, parfois, mais plus rarement plusieurs trous. L'hypothèse émise parmi d'autres est qu'ils servaient à redresser à chaud les pointes de sagaie en os. Celle-ci était chauffée au feu, et donc moins rigide, puis était passée dans le trou du bâton perforé, ce qui les redressait petit à petit. Cette opération était rendue nécessaire soit en raison de la courbe naturelle de l'os d'animal utilisée pour la pointe de sagaie, soit à la suite d'une déformation due au choc lorsque la sagaie avait atteint l'animal chassé. L'art pariétal. Paradoxalement, la peinture dite pariétale, c'est-à-dire ornant les parois des grottes, n'a retenu l'intérêt qu'à partir du siècle dernier. Près de 3 millions d'années séparent les premiers outils des premières représentations sur les parois des grottes. L'art, en effet, n'apparaît qu'entre moins 40 000 et moins 30 000 ans. Mais ce n'est pas le propre de l'Europe comme longtemps on a eu tendance à le croire. D'après les récentes datations de milliers de gravures rupestres sur le site de Pilbara en Australie, celles-ci sont contemporaines des nôtres. Elles abordent des thèmes aussi variés que la vie quotidienne, la sexualité ou la magie. De nombreuses hypothèses ont été émises concernant leur origine. Réunions magiques, plans de chasse futurs, lieux d'initiation, esquisses d'une religion, pur plaisir esthétique sont autant de pistes possibles. Le jeudi 12 septembre 1940, quatre adolescents découvrent ce qui devient pour tous un des lieux les plus exceptionnels de l'art pariétal, Lascaux, où se rend quelques jours plus tard le préhistorien Henri Breuil. Entre 1952 et 1963, 900 gravures furent relevées. Mais c'est véritablement à la fin du XXe siècle que plusieurs voies de recherche se précisent. Répartition spatio-temporelle des figures, technologie des gravures et des peintures, étude de l'utilisation du milieu naturel. Les datations au carbone 14 ont révélé la haute ancienneté de ces figures rupestres, datées d'autour de moins 15 000 ans. D'autres sanctuaires témoignent aussi de l'ancienneté encore plus haute de leurs figures. L'abri l'abattu, les grottes de la Moutte et de la Grèze, situées en Dordogne notamment. Avec André Leroy-Gourand, né en 1911 et mort en 1986, naît l'hypothèse que les représentations pariétales sont organisées selon un ordre précis, destinées les unes au fond ou à l'entrée, les autres aux panneaux centraux. Mais surtout, il envisage une dualité fondamentale femelle-mâle, représentée par le couple symbolique bison ou auroch-cheval, à la fois opposé et complémentaire. Toutes les représentations figurées, et quelle qu'en soit la nature, relèveraient de cette division essentielle entre le masculin et le féminin. Pensée religieuse, acte fondateur de l'existence, accompagnement des défunts, monde animal, suivraient cette dualité.
Le saviez-vous ? Mammouth écrase les cris. Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, connu sous le nom de Boucher de Perthes, est le père de la préhistoire. Au début du XIXe siècle, à une époque où l'on s'accorde à penser que l'apparition de l'homme remonte à moins 4000 ans, il prouve par ses fouilles que l'homme et le mammouth ont vécu au même moment. C'est tout le propos de son célèbre discours « De l'homme antédiluvien et de ses œuvres ». Non seulement l'homme a connu le mammouth avant le déluge, mais il l'a fait dans la vallée de la Somme, où s'ébattaient les hippopotames, à une époque où le climat était tropical. Violemment contesté, Boucher de Perthes connaît la consécration peu de temps après son discours, quand en 1864 est découverte en Dordogne la grotte de la Madeleine, où l'homme préhistorique a gravé un mammouth.